bonjour, bienvenue sur votre radio La Nouvelle Génération. Nous sommes au lundi 8 avril 2024, il sonne 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Koku Vitokbe Tomega assure la mise en onde, Jérôme Dakoutia assure la mise en ligne, je suis Pascal Lossou au micro. Comme toujours, vous le savez très bien, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi. Jacques Dakouti est là. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je voudrais saluer nos amis musulmans qui achèvent, je crois, demain leur jeûne. Et la fête, c'est le mercredi. Et saluer également les chrétiens catholiques également. Je crois que cette année, les choses se sont chevauchées entre les musulmans et les chrétiens, ce qui est une très bonne chose. Je salue effectivement nos frères et sœurs musulmans et frères et sœurs catholiques sur ce jeûne qu'ils ont eu à faire, ce qui dénote une fois encore la paix souhaitée pour le Togo au cours de leur prière.
Et la cohésion sociale.
La cohésion et le bonheur pour notre pays.
D'accord. Merci beaucoup, Jacques. Nous souhaitons également, enfin, nos salutations fraternelles également à tous les musulmans qui finissent déjà le carême demain, mardi. Alors, Gaston Ketomanian, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Bien passé le week-end?
On peut dire. Je saisis l'occasion pour envoyer un clin d'œil aux lecteurs, fidèles lecteurs du journal Liberté, et profiter de l'occasion pour encourager mes frères et sœurs togolais en général et agriculteurs en particulier, parce qu'avec la saison des pluies qui vient de commencer, on comprend que ceux-là qui vivent de la terre doivent retrousser les manches et aller au boulot. Voilà.
Voilà, justement, Gosson, vous m'avez lancé en quelque sorte la pêche, comme on a l'habitude de le dire. Nous voulons parler même d'ailleurs de ce sujet concernant l'environnement. Nous savons que déjà, il y a eu une grande pluie depuis hier et ça augure en quelque sorte alors de bons rendements alors pour la nouvelle saison. Alors, on sait quand même que nous avons traversé aussi des moments de chaleur suffocants et finalement, on pourra dire quand même que oui, adieu ces moments de chaleur.
Bon, je ne veux pas parler de la chaleur en particulier parce que une fois que la pluie a commencé, c'est normal que pour quelques mois, les Togolais retrouvent la fraîcheur au lit, les soirs. Mais je veux profiter de l'occasion pour dire que en ce moment de pluie, je crois que les autorités en avaient tenu compte avant de faire la programmation pour les élections. C'est sûr qu'on va y arriver. Mais voilà que la pluie a commencé. Nos amis, les agriculteurs doivent aller au champ. Maintenant, comment se fera la campagne? Mais actuellement, il n'y a pas que la campagne. On a ouï dire, c'était une rumeur qui est devenue clameur, que des représentants du peuple, je veux dire les députés qui ont déjà donné le quitus à leur révision constitutionnelle. Ils étaient 89 sur 91, mais voilà qu'on apprend qu'ils seraient envoyés sur le terrain pour faire quelle campagne. On ne sait pas encore, mais c'est dommage. Est-ce qu'ils vont aller vers les populations dans les champs? Comment ça va se faire?
D'accord, on va en parler alors au cours de cette émission. Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à mes aînés en studio.
Bien passé le week-end?
Ben, nous rendons grâce, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir.
La pluie apporte souvent de la fraîcheur, nous le savons tous, mais au même moment, ça donne alors des calvaires dans certains quartiers, j'allais dire, de Lomé. Je veux bien parler alors de ces situations d'inondation.
Je crois que c'est véritablement des réalités des réalités africaines auxquelles il faut véritablement faire face dans nos pays, dans nos différents pays sur le continent. Nous avons pris l'essentiel de notre temps pour, je dirais, nous amuser et on a oublié de faire ce qu'il faut pour parer à un certain nombre de problèmes et de difficultés pour les populations. Et donc, du coup, aujourd'hui, comme tu l'as dit, quand il y a des pluies, ce n'est pas forcément le beau temps chez tout le monde. Moi qui est ici, ayant déjà vécu des situations pareilles à Lomé, en plein cœur de Lomé, il y a quelques années là, c'est terrible, hein. J'ai la compassion pour ceux qui vivent des situations pareilles, avec des inondations, des fois même qui les délogent de leur lit. Bon, heureusement, ces derniers temps, on n'a pas enregistré de morts, mais à l'époque, en 2010-2011, on enregistrait encore des morts dues à des inondations dans nos quartiers à Lomé. Et je crois que les autorités doivent... il y a des efforts qui se font. Ça, on reconnaît, il y a des efforts qui se font. Mais je crois fondamentalement qu'on doit alors là multiplier encore plus d'efforts pour que si c'est les canalisations qui ne sont pas bien, qu'on puisse les revoir. Si c'est les bassins de rétention, qu'on puisse les revoir. Des ouvrages qui doivent permettre véritablement de drainer l'eau qui se stagne un peu partout un peu partout dans la ville de Lomé et qui pose de véritables difficultés pour que ces eaux-là puissent être canalisées vers quelque part pour que on n'assiste plus à ces situations. Des gens nous avaient dit que il y a une inondation à Lomé parce que là, à cause de la marée haute ou la mer et tout ça. Mais véritablement, de ma foi chrétienne, je sais que la mer ne va jamais venir envahir le territoire parce que la Bible nous apprend qu'on a limité, Dieu le Créateur a limité la mer. Et la mer restera là-bas, elle ne viendra jamais à Agouet. Donc à partir de ce moment-là, il y a encore des efforts à faire pour le drainage de ces eaux fluviales qui posent véritablement des problèmes aux populations pour que véritablement les prochaines fois, quand il y a la pluie, nous puissions tous dire ensemble qu'il y aura le bon temps.
Jacques, c'est vrai qu'il y a des efforts qui se font, hein, mais on doit quand même accentuer, intensifier plus alors ces efforts pour que les populations sortent alors de ces calvaires répétitifs.
Vous avez raison, je crois que le mois passé, il y avait une réunion interministérielle à la primature, effectivement pour revoir les mécanismes par rapport à ces inondations dans notre capitale et voir comment aider nos populations au cas où il y avait effectivement ces inondations. Mais ce que nous constatons dans notre capitale, comme on l'a si bien dit, on le dit toujours, c'est qu'il n'y a pas de canalisation. Quand on construit par exemple ces routes, il n'y a pas de canalisation et les rétentions également d'eau, il n'y a pas souvent les curages au niveau effectivement de ces rétentions, comment l'eau même coule vers ces rétentions d'eau, il y a également ce genre de problèmes. Et vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la chaleur, entre-temps j'ai vu un phénomène qui m'avait un peu attristé, mais je crois qu'il faudrait que les autorités prennent les taureaux par les cornes. Il y a souvent des enfants qui s'amusent à aller se baigner au niveau de ces rétentions d'eau et ça cause souvent des problèmes. Je crois qu'il faudrait effectivement que l'État prenne les responsabilités, mette peut-être les gardiens au niveau effectivement de ces rétentions d'eau, éviter aux enfants de pouvoir se jeter là-bas pour dire qu'ils sont en train de se baigner. Je crois que ça pourrait aider effectivement nos populations. L'autre aspect également, c'est le curage. Hein, il faut tout le temps curer effectivement ces bassins et puis également, comme je le disais tout à l'heure, les bassins que nous avons. Parce que si on ne le fait pas, avec les pluies qui ont commencé, le gouvernement peut faire des réunions interministérielles, mais il faut se dire que quelque part, si des actions ne sont pas menées, il faut reconnaître que ça ne va pas marcher. L'autre aspect, il faudrait que l'État fasse tout pour construire les routes, de vraies routes dans notre capitale. Parce que si vous construisez les routes, il n'y a pas de canalisation. Et lorsqu'il pleut, vous voyez que l'eau là se retrouve encore sur les routes construites. Et c'est ça qui crée effectivement la dégradation effectivement de ces routes. Et on se met à dire, mais une route qu'on vient de construire, ça ne fait pas encore 2 ans, 3 ans. Et la route là se dégrade. Donc je crois qu'il faudrait effectivement que l'État prenne également ses responsabilités également à ce niveau voir comment effectivement construire ces routes et voir comment ces eaux-là pourront couler pour ne pas créer encore d'autres dommages au niveau effectivement de ces nouvelles routes construites.
Uriel Yang, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères ici présents, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. J'avoue que ce barrage de la route au niveau du boulevard des Armées, le tronçon maintenant vers Anoukopé, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il n'y a pas eu de la communication. Imagine, j'arrive là-bas à 10 minutes de l'heure de l'émission. La route est barrée, il faut
qu'on
vers tout point trésor, revenir au rond-point lumineux avant de chercher Canal.
J'étais étonné que tu sois en retard.
Tout à fait, moi personnellement, j'étais aussi étonné puisque tu es l'un des fidèles ponctuels.
Même la nationale, au niveau de Avenue Maman d'Anida, c'est terrible. J'ai fait une quinzaine de minutes pour arriver ici. De Colombe de la Paix jusqu'ici, il faut faire une quinzaine de minutes parce que on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des agents partout, mais il y a une foule terrible. On ne sait pas ce qui se passe en fait dans la ville. Donc de Colombe de la Paix là pour arriver à à motiver là, c'est terrible. C'est terrible de pouvoir y arriver. Donc là, peut-être qu'il faut une petite communication au niveau de la police pour éviter peut-être des situations pareilles.
Et lorsqu'on est à bord de sa voiture, ce n'est pas une moto où c'est facile de rentrer dans les tronçons et de sortir. C'est un peu compliqué. Reprendre les chemins comme ça avant de chercher là où on va. Franchement, je ne sais pas, cet entretien routier émane de qui? De la mairie Golf 4 ou bien c'est le ministère des Travaux publics? Il va falloir communiquer parce que le tronçon là est très bien exploité. Et on a besoin de l'information pour ne pas arriver à être surpris par un blocus.
D'accord, Uriel, on sait que ce tronçon dont vous parlez, d'habitude, quand il y a même d'ailleurs la saison de pluie, c'est un tronçon qui est impraticable, hein, pratiquement, parce que quand vous voulez même pratiquer ces trucs avec ce n'est plus alors des nids d'oiseaux, hein, comme on le dit, ou des nids de poules, comme on le dit, mais avec, comme nous sommes en train alors de rentrer dans cette saison, je pense que c'est pour cela qu'il y a cet entretien, et il le faut, hein, pour que du moins on arrive à pratiquer bien cette route.
Non, je ne sais pas si l'entretien en cours a pour objectif d'éviter les inondations ou bien, puisqu'il y avait déjà des obstacles, il y a des trous énormes sur ce tronçon-là. Tu sais, moi, j'ai maîtrisé le nom de ce quartier, Tukwem-Gbadago, à cause de son état. C'est parce que l'état de la route est tellement défectueux que j'ai pu maîtriser le nom de ce cas. Quand on parle de Tukwem-Gbadago, je ne sais pas s'il pleut, tu as le courage d'y aller. Je pense plutôt que ce qui se fait actuellement là-bas, c'est la réparation de ces points critiques qui nous emmerdaient. À cause de ces points-là, tu peux même passer 15 à 20 minutes avant de venir vers Anoukopé. Donc, je pense que ce sont ces points qui sont en train d'être réparés. Mais ce qui concerne l'eau même qui dérange le quartier à partir de ce tronçon, je ne crois pas que ce soit le travail qui soit en train d'être fait allemand. Bon, je ne sais même pas si cela relève des compétences de la mairie ou du ministère des Travaux publics. Vivement que des dispositions soient prises pour qu'au moment de pluie, le quartier là évite au maximum les effets de l'inondation. Il n'y a pas que ce quartier.
Mais tout à fait, c'est ce que moi je vous ai dit. Il n'y a pas que ce quartier. Et c'est pratiquement, enfin, il y a beaucoup de quartiers à Lomé qui déjà, à cette période alors de pluie, automatiquement sont victimes alors des inondations.
Oui, là-dessus, je voulais m'exprimer par rapport au propos de Didier tout à l'heure qui parlait de sa foi chrétienne par rapport à la mer qui ne pourrait pas envahir un jour la ville de Lomé ou atteindre Agoué. Non, est-ce qu'il s'agit de la foi musulmane ou chrétienne ici? Je pense que c'est une réalité scientifique. Tu as vu dans les pays occidentaux,
au Liban, on se souvient.
Partout, ce n'est pas une question de la foi. Si, en fonction du positionnement, tu sais que les experts ont démontré que, en réalité, si la mer doit envahir la ville de Lomé, la position, la hauteur de la mer équivaut à la hauteur de l'hôtel Eda Oba. Donc, si tel est le cas, ça veut dire que le jour où les vagues vont s'énerver contre nous, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Là, donc, peut-être, c'est parler de la foi, peut-être une grâce. Sinon, la réalité scientifique, elle est là. Mais nous sommes contraints d'y être parce que c'est ici qu'il y a des opportunités. Nous sommes à côté de la mer. Hein, tout vient par la mer, tout passe par l'aéroport. Nous sommes contraints d'y être. Maintenant, les curages dont nous parlons. Mais l'État fait de son mieux par rapport à ces curages-là, parce que je suis quand même proche de ces structures-là qui œuvrent, hein, pour le maintien du bon état de la route. Mais à chaque fois qu'on finit de faire le curage, c'est nous-mêmes, en tant qu'usagers de la route, en tant qu'habitants, en tant que bénéficiaires de cette structure-là, 3 jours après, lorsque les services compétents reviennent, on a déjà tout bouché. Il ne peut pas faire... ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre. S'il pleut, vous prenez par exemple ce qu'on appelle l'échangeur d'Agouet pour monter vers Leader Press, pour aller vers l'état-major. Mais la façon dont l'eau envahit la route, ce n'est même pas comparable à un fleuve. Le fleuve même est plus tranquille. C'est-à-dire que l'eau Karma se dévie de sa trajectoire et vient envahir Karma la route, parce que les caveaux qui ont été construits sont complètement bouchés et l'eau ne trouve plus de passage, si ce n'est que de passer sur la route. Donc, quelque part, de notre comportement dépend les inondations que nous vivons. Il n'y a pas que les petits efforts qui sont là, mais qu'est-ce que nous-mêmes on fait pour maintenir en bon état la structure-là qui pouvait permettre de passer et de rejoindre quelque part là.
Voilà, il y a cette responsabilité citoyenne aussi que nous devons jouer. D'accord. Nous allons rapidement quitter le sujet, hein, pour parler cette fois-ci de ce sujet qu'évoquait entre-temps Godson. Je veux bien parler alors de cette liste, hein, des élus alors du peuple circulaire, hein, sur les réseaux sociaux hier. Moi, j'ai quand même la liste, hein, concernant cette année des parlementaires qui a commencé aujourd'hui, et c'est pour 3 jours, et c'est pour aller sensibiliser alors les populations sur la révision constitutionnelle. Quand vous avez trouvé même d'ailleurs la liste pour ce travail, c'est vrai, moi j'ai vu quand même qu'il y a des chefs traditionnels qui seront sensibilisés, aussi des groupes organisés. Je ne sais pas trop ce qui est mis dans les groupes organisés. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose.
Non, véritablement, nous tous on a découvert cette information. Puisqu'il y a des avertissements sur les fake news, donc moi j'ai pas tellement accordé l'importance à cela, parce que j'attendais une communication plus officielle et plus organisée autour de cette affaire. Mais puisque c'est sur les réseaux sociaux qu'on trouve, et en même temps il y a un communiqué qui met en garde.
Tout à fait, c'est le paradoxe.
Oui, donc moi je me suis un peu réservé. Mais j'ai également lu justement sur la composition des personnes à rencontrer, le terme groupe organisé. Et là, je me pose aussi la question. Bon, voilà, les groupes organisés, c'est tellement vague qu'on ne pourra jamais les définir. Nous, peut-être c'est aux initiateurs de nous situer véritablement sur ce qu'on met dans les groupes organisés pour véritablement éclairer la lanterne de tous les Togolais et rassurer les Togolais qui s'inquiètent ou qui se prononcent sur cette affaire de modification ou de changement de la Constitution. Donc, chacun se pose la question, mais sauf que là, on n'a pas d'interlocuteur direct à qui on pourrait poser la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans les groupes organisés. Sinon, à part les chefs traditionnels, on les connaît, les maires, on les connaît, on sait qui ils sont. On a dit même de voir quelques groupes de femmes et tout ça. Bon, voilà, à part ça, mais on attend de voir ce qu'on met dans les groupes organisés, parce que là, il y a beaucoup plus d'entités qui se prononcent, qui sont plus connues et qui sont vraiment absentes de la liste telle que dressée. Pour des personnes à rencontrer, on ne sait pas si au-delà de cette tournée-là de 3 jours annoncée, il y aura véritablement d'autres cadres de discussion, d'échange autour de cette thématique très très importante pour le pays, qu'est un changement de constitution.
Jacques, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette tournée?
Vous savez, ça, c'est quand même un peu dommage. Voilà, on nous annonce de l'or qu'on n'a pas encore vu, et on nous donne la couleur de l'or. Certains disent que l'or est jaune, l'autre disent que c'est noir, d'autres disent que c'est l'or blanc, on ne sait pas. Finalement, on est là, on regroupe les gens, on dit, bon, écoutez, il y a l'or quand même. Mais pour le moment, on ne va pas vous donner la couleur. Mais sachez que l'or qu'on a trouvé, c'est noir, blanc ou jaune. On ne sait pas.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez bien fait l'analogie.
Oui, parce que, vous savez, voilà, on nous parle d'une constitution qu'on n'a pas vue, qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, on regroupe les gens pour leur parler, pour leur dire quoi, au fait. On a critiqué dans ce pays que le mandat des députés a déjà expiré. C'est ce qu'on nous a dit. Finalement, c'est les mêmes députés encore qu'on envoie vers le terrain pour expliquer aux groupes organisés ce qui se trouve dans ce test. Et de quand vous diront qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas le document aussi.
Mais est-ce que là, ça ne vient pas confirmer les propos du ministre Bawara qui disait déjà sur RFI que tel que cette réforme a commencé, ça ira jusqu'au bout?
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Vous savez, tout ce que nous faisons, il faut que nous mettons toujours en tête le tribunal de la conscience. Vous comprenez? Surtout le tribunal également de demain. Moi, je suis Togolais. Vous êtes également Togolais. Une constitution, par exemple, qu'on veut changer, je suis, en tant que Togolais, en droit de connaître un peu cette constitution, ce qui s'y trouve. Au moins, on regroupe maintenant les gens à l'intérieur du pays pour leur parler de quoi, au fait?
On leur dit quoi? Constitution.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Nous voilà ici, dans ce studio. Je ne sais pas si Uriel, si Godson ou Didier, peut-être à ce test. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont le test. Moi, je n'ai pas le test. Parce que souvent, par exemple, quand des choses se passent, par exemple, c'est nos frères, par exemple, du village qui nous appellent. Ils disent, bon, on a eu telle information. Qu'est-ce qui se passe réellement? Maintenant, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on les envoie vers nos frères de l'intérieur qui seront obligés encore de nous appeler pour dire, bon, on est venu dire ceci, mais on ne comprend pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la chose. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître la main sur la conscience. Revenons, parce qu'il n'est pas encore trop tard, pour mieux faire. Pour dire vrai, Pascal, dans cette histoire, ce n'était pas l'affaire des députés, c'est l'affaire du chef de l'État. C'était à lui de pouvoir convoquer les couches dont on parle et leur faire part de ce qui se passe. Parce qu'il y avait déjà un calendrier républicain qui était déjà annoncé, c'est-à-dire les élections législatives que tout le monde connaissait, savait déjà, qui devait se dérouler. Maintenant, on bat en brèche les élections législatives. On dit maintenant, on va aller expliquer la nouvelle constitution. Vous voyez qu'il y a un paradoxe. Les gens ne pourront pas comprendre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a d'aucuns vous diront qu'il y a une constitution, mais vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le pays. On a deux Togo. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et ceux qui sont pour leur poser la question de vous faire sortir le test, ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas le test. Donc, allons sur une base. La base d'abord de d'ouvrir ce test, on l'étudie, et une base maintenant d'aller et de faire maintenant une sensibilisation, et après maintenant, on pourra passer à ce qu'on appelle un référendum. Mais si aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, moi j'ai peur que ça se retourne encore contre nous. Parce que j'ai peur que ça ne puisse pas produire l'effet escompté par nos populations.
D'accord.
Donc, plaise à Dieu que ceux qui ont aujourd'hui le monopole de cette gestion de la chose publique disent à nos compatriotes, c'est vrai que nous avons voulu faire ci. Mais vous savez, dans la vie, on peut se tromper. Hein? Je peux prendre, par exemple, une moto, disant que je vais, par exemple, à Nkopé, et je peux me tromper de trajectoire. Mais cela ne m'empêche pas de revenir sur le point de départ à Nkopé. Vous voyez, donc je crois que nous sommes des Togolais, prenons effectivement le temps de pouvoir parler entre nous. C'est
d'accord.
Important.
Godson, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cet large, comme c'est ce qui est dit, hein, large consultation de la population?
Bien, si Jacques a essayé de faire la fine bouche en ne nommant pas tout, je suis obligé d'aller un peu plus loin. Raisonnons ainsi. Ceux des députés qui partent sur le terrain. Je ne veux pas savoir ce qu'ils vont dire au groupe organisé là. Mais au vu du vote de la révision qu'il y a eu à l'Assemblée, ceux qui vont ont déjà donné leur quitus à cette révision. Ça sous-entend clairement que là où la mission pour laquelle ils sont envoyés sur les frais du citoyen pendant 3 jours, ce n'est pas pour aller recueillir l'avis de nous, les peuples, le peuple. Mais c'est pour nous faire avaler ce qu'eux, ils ont déjà voté. Moi, je ne peux jamais avaler ça. Même avec un fusil sur la tempe, ça ne peut pas passer. Je vais préciser en passant que tout à l'heure, tu as cité le ministre Bawara qui dit que quel que soit... Ayons à l'esprit, en tête, que tout ministre au Togo est un serviteur du peuple. Il est mon serviteur, il est ton serviteur, il est le serviteur de Jacques. Donc ce n'est pas ce que lui vient dire sur les ondes de RFI, c'est pas ça qui fait foi. C'est ce que le peuple aura décidé. En la matière, ce n'est même pas qu'on met la charrue avant les bœufs. Dans la Constitution, soit les députés peuvent se permettre de modifier des articles de la Constitution. Mais quand ils touchent à l'article 59, c'est mathématique, comme on l'avait prédit pour le Titanic qui devrait couler.
L'article 59 parle alors du mandat du président.
Du président, il faut demander l'avis du peuple. Ce n'est pas ce qu'ils sont partis faire là. En plus, c'est qui ils vont rencontrer. Hier, nous avons eu l'information et on en a éditorial de ce matin. Des préfets ont été réunis à Dapaon et ailleurs, partout ailleurs, avec pour mission de faire passer la pilule. C'est ça le mot, faire passer la pilule. Mais dans cette session, et toi, et Jacques, et moi, on est convaincus que pour cette affaire-là, c'est très simple. On a des élections dans quelques jours dont on ne connaît même plus la date à laquelle elles auront lieu, mais qu'on ajoute un référendum. Est-ce que le projet... Parce que, soit dit en passant, ce n'est plus une proposition, ça. C'est un projet. Parce que le projet est défendu par les délits. Mais quand c'est des ministres qui viennent défendre une proposition de loi, ça donc sous-entendez que c'est un projet de loi qu'on a habillé en proposition. Donc, permettez que le peuple se prononce. Si on dit oui, là, ce serait motus et bouche cousue, ça va passer. Mais ils vont séjourner dans des hôtels pendant 3 jours. Sur le dos de qui? C'est pas avec leur agent de poche. C'est des faits de mission. Mais qui est-ce qui paie l'addition? C'est vous et moi. Soyons sérieux. Il est temps qu'ils reviendront. Mais n'en déplaise à celui-là qui pense que ça va passer. Je rappelle que le Togo qui est en train de faire le lobbying auprès des États-Unis et de l'USAID, on nous a demandé, en ce moment de tension, de déclarer la situation politique de façon démocratique. Ce n'est pas en allant consulter des groupes organisés. Je suis désolé.
D'accord. Uriel, c'est vrai qu'on désire faire une large consultation. Est-ce que déjà la manière utilisée, ou la méthode utilisée, est-ce que vous trouvez déjà quelque chose à l'ordre de mal en ça?
Non, pourquoi chercher seulement ce qui est mauvais là-dedans? Vous savez, j'avoue, comme tout le monde, que pour l'instant, nous ne maîtrisons rien sur le sujet. Nous ne maîtrisons pas, puisque nous n'avons pas les tests. C'est par là que tout notre raisonnement devrait passer, en réalité. Moi, je n'ai pas les tests. Je ne l'ai pas encore parcouru. Personne n'a eu pitié de moi aussi pour me passer 3 pages. 3 pages les plus fondamentales pour dire à mon frère,
tu veux lesquelles pages?
En disant au moins,
mais tu as les exposés de motifs.
Je ne les ai pas, je t'assure, je n'ai pas les exposés des motifs. C'est ça même qui est fondamental aussi. C'est exposé. Même pour déposer un projet quelque part, il y a des motifs. Je ne les ai pas, je ne peux pas mentir sur ce plateau-là. C'est très délicat. Sauf que le président de la République ayant pris la décision à la veille du démarrage des campagnes électorales pour surseoir tout et demander à l'Assemblée nationale de prendre en compte le point de vue de tout le monde, moi j'ai confiance que ce monsieur saura choisir le bien du mal. Quels que soient les résultats issus de ces consultations, moi, j'ai foi, je sais qui saura s'il faut retirer le test ou le maintenir. Je sais qu'il sait faire la part des choses. Ça, j'ai confiance.
Ah, mais si c'est ainsi, oui, si c'est ainsi, est-ce que déjà pour le démarrage, on sait quand même qu'il y a des voix qui s'élèvent pour qu'on retire le test. Et est-ce qu'on ne peut pas le retirer déjà tout de go?
Non, le retirer ainsi, je pense que la procédure de consultation n'est pas mauvaise. Peut-être son contenu, qui il faut consulter. Ils iront consulter qui? Est-ce que les partis politiques sont associés à la consultation? Est-ce que le clergé est associé à la consultation? Est-ce que qui et qui sont associés à la consultation? Peut-être c'est là que le problème va se poser. Sinon, aller consulter la population n'est pas une mauvaise chose. Il faut la consulter et revenir voir. C'est bon, est-ce que la majorité est pour, est-ce que la majorité est contre? Mais si on vient tromper aussi le chef de l'État, je pense qu'il saura, hein, il saura qu'on l'a trompé. Derrière ces équipes de consultation, le chef de l'État, c'est un chef de l'État. Il sait comment mettre la police, je parle de la police, pas la police entre eux, une police de surveillance pour voir si ce qu'ils viendront rendre compte est juste ou pas. Et vous savez, est-ce que vous savez ceux qui iront sur le terrain pour les consultations?
Les députés?
Non, ce n'est pas les députés, c'est le bureau de l'Assemblée. C'est les membres du bureau. Ce n'est pas tous les députés qui iront. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, nous n'avons pas les informations et il nous est très difficile de poursuivre. Vous voyez, le problème qui se pose dans ce sens, puisque nous sommes là pour être objectifs et contribuer aussi au pays, le problème qui se pose aussi, si ce n'est pas tous les députés qui iront pour les consultations. Imagine, je suis député, j'ai été élu dans la seconde, je dis de n'importe quoi à Kpendial. Maintenant, je parle cette langue très bien. Les populations m'écoutent dans leur langue. Mais aujourd'hui, que je ne fais pas partie de la consultation et que c'est Didier qui ne parle que son neveu, son Mina, son Wati, qui ira dans Kpendial pour poser les questions aux populations en quelle langue? Pour s'exprimer comment? Vous voyez, c'est pourquoi quand vous parlez de 3 jours, ils iront rester ou faire comment? Vous avez vu la répartition. Hier, moi, j'ai dû écrire à une personne ressource pour lui demander si le document là est un document, ça, est un document qui porte froid. Il m'a dit oui avant que je ne croie. Sinon, je me suis dit que c'est les effets des réseaux sociaux. Je n'ai pas cru en ça. Parce que ça a été tellement simple, très court. En 3 jours, on va consulter tous les Togolais pour voir si ils sont pour. Vous voyez que pour le changement d'une constitution, à mon avis, c'est peu. Changer la constitution n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est peut-être la procédure qui a faussé. Mais je prie vivement que les plus hautes autorités de l'Assemblée nationale, moi je n'ai jamais, depuis que cette dernière législature a commencé son travail, moi je n'ai jamais bénéficié des informations pour travailler là-dessus. Je prie vivement qu'on tienne compte des journalistes qui font un très bon boulot. Nous sommes des journalistes. Nous avons des sociétés de presse et nous contribuons. Notre rôle, c'est d'informer, d'éduquer, de sensibiliser. C'est notre rôle. Mais si nous n'avons pas la vraie information, comment on pourra travailler? Donc, c'est un lobbying. C'est un plaidoyer pour que les autorités tiennent compte des journalistes, pour qu'on nous fournisse les informations.
D'accord. Oui, disait, c'est vrai, disait, Uriel le disait tout de suite, que oui, changer la constitution n'est pas mauvais en soi, mais ce qui peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que déjà, comment se fait-il qu'on se presse tellement pour le faire? Est-ce que c'est l'urgence actuellement?
Bon, peut-être qu'on posera la question aux initiateurs. C'est vrai qu'on a dit que c'était un groupe de députés, mais depuis que cette affaire, cette crise entre griffes s'est déclenchée, on ne voit jamais les députés initiateurs de ce projet-là venir véritablement le défendre, à l'exception d'un certain Inosa Kagbara qui parle pas. Tous les autres... C'est pas péjoratif ce que je dis. Il est pratiquement sur le pas des radios. Dans les plateaux, c'est pas péjo. Ce que je dis, c'est pas péjo. C'est juste un constat. Oui. Donc, à part lui, on voit moins d'autres qui parle de cette constitution.
La semaine dernière, nous avons reçu même aussi le député Kofi Soudokin qui était venu alors nous expliquer.
Voilà, donc ça, c'est du nouveau alors. Donc, il y a quelques d'autres qui commencent pas à sortir aussi. Mais à part ça, je dis, on voit pas vraiment les initiateurs derrière. Et après, vous savez, nous connaissons trop bien notre pays. De notre petite, du haut de l'âge que nous avons et de notre petite expérience dans ce domaine-là, nous connaissons un peu trop bien notre pays. Et moi, il me paraît un peu curieux de voir qu'on est pratiquement à la fin d'une législature et quelques députés, 19 ou 21 par là, se décident, eux, de venir changer la constitution du Togo. C'était trop beau, trop beau pour être vrai. Donc, il faut comprendre par là qu'il y a véritablement d'autres personnes derrière. Et une initiative pareille ne pourrait jamais être prise sans que ça ne soit dans la connaissance du chef de l'État. Ces députés-là auraient pu déjà être en train de faire la prison si le chef n'était pas au courant. Donc, on comprend que c'était un projet véritablement voulu par le pouvoir, moi je le préfère comme ça, par le pouvoir qui veut véritablement changer quelque chose. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce qu'on a appliqué la constitution de 92, est-ce que c'est l'urgence ou pas. Non, moi, je sais que politiquement, les réformes se mènent par ceux qui sont au pouvoir. C'est partout dans le monde, c'est le pouvoir qui mène les réformes. Alors là, cette réforme-là, elle est majeure. Et j'estime également que si on veut changer de constitution, comme le dit Uriel et d'autres, c'est peut-être la manière qui pose véritablement de soucis. Maintenant que tout ça a été fait déjà derrière nous et qu'on veut temporiser maintenant, remettre la balle à terre et reprendre les choses, je sais que ça, au moins, on sait faire les choses. On sait faire les assises au Togo. On a traversé une grave crise en 2005. Après, il y a eu quand même ce qu'on a appelé accords politiques globaux.
Global.
Voilà, APG. Et les acteurs, les parties prenantes d'une telle initiative n'ont pas disparu de la scène politique. Ils sont encore là. On a eu une commission CVJR, on a eu d'autres assises, même il n'y a pas très longtemps, même avant que cette Assemblée nationale ne soit en place, il y a eu encore des discussions sur des problèmes politiques majeurs du pays. Parce que la Constitution, c'est vrai, ça concerne tous les citoyens, c'est hautement politique aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de couches de la population qu'on devrait associer à cette initiative si on veut véritablement faire quelque chose de véritablement inclusif qui représente tous les Togolais. Je crois que le cadre, ma foi, n'est pas le meilleur actuellement par rapport à ce qui se fait. Parce que quand on va sur le terrain, on va aller consulter des gens de CVD qui travaillent déjà avec des acteurs du pouvoir. Les chefs traditionnels, les analyses, chacun pourra essayer de regarder. Les préfets qui donnent déjà des ordres aux maires, qui les convoquent et qui leur intiment déjà un certain nombre de choses. On a parlé de venir quelque part, j'ai lu 4 filles et un garçon, ou des choses comme ça. Donc, ma foi, ce n'est pas encore très très représentatif et véritablement assez inclusif de véritablement ce que j'estime que le chef de l'État voulait entendre par des consultations, les larges consultations. C'est ça, je dis, on n'a pas tous les éléments pour apprécier. On ne sait pas si au-delà de ce qui se fait à partir de ce jour pour les 3 jours, il va y avoir d'autres cadres pour véritablement rencontrer des acteurs majeurs, les acteurs sociopolitiques majeurs de notre pays. Et je prends pour exemple que dans la liste qui est constituée, on ne voit pas de représentants de partis politiques. On ne voit pas, lui il a parlé par exemple de clergé, on ne voit pas de représentants qui devraient être consultés, et bien d'autres également dans la scène politique du Togo ou sociopolitique du Togo. Donc à partir de ce moment-là, il faut véritablement, ma foi, que le chef de l'État aille jusqu'au bout de sa logique. Si la volonté politique affichée, c'est qu'on puisse écouter tous les acteurs, c'est qu'on puisse assier tous les acteurs qui sont intéressés par le changement, si tant est que la volonté c'est toujours de changer la Constitution, il faut véritablement poser le débat sur la table et demander à tout le monde. À défaut, puisque des gens disent que des députés peuvent faire des choses, qu'on peut faire par référendum aussi, moi je ne vais pas rentrer dans les débats techniques ou juridiques, tout ça. Je parle en tant que citoyen, je dis si c'est la volonté, si le minimum que nous savons, c'est que les députés ont été élus par des gens. par des Togolais. Donc, si les gens ne font plus confiance à ce que des députés font, allons vers ceux qui les ont mandatés. Le souverain premier, le souverain premier qui est le peuple, allons vers lui. Si c'est peut-être, on lui pose directement la question si on change de constitution ou on ne change pas de constitution. Mais là, actuellement, je pense que c'est déjà quelque chose qui se fait, mais ce n'est pas assez suffisant pour représenter tous les Togolais. Parce que moi, par exemple, je ne me vois pas encore représenté dans les couches qui sont convoquées.
D'accord. Nous sommes rejoints par Mohamed Madi Diabakate, professeur, j'allais dire. Bonjour, professeur.
Non, professeur, c'est un avis de l'adresse. Même si j'essaie de convaincre toujours les gens que je ne suis pas professeur, ils pensent que je dois être professeur.
Ah. Vous êtes politologue, analyste politique, bien sûr. C'est vrai, nous sommes en train de faire ce débat concernant notre constitution. Je sais que vous suivez bien ce débat et le cours des choses. Dites-nous, aujourd'hui, c'est vrai, on est en train alors de faire une large consultation, c'est ce qui est dit, par rapport à la nouvelle constitution, puisque cette constitution va nous basculer, va basculer le Togo alors vers un nouveau régime, le régime parlementaire. Et vous appréciez même d'ailleurs tout ce qui se passe en matière alors de cette révision constitutionnelle.
Merci beaucoup. Je pense que if you dans ce pays, on a dit conférence nationale, des gens disaient dites souveraine, dites quoi. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une consultation, je vais dire une consultation dite large, parce que sur le fond, on est un peu dans le flou. Tout ce qui a circulé, d'abord le document qui a circulé, qu'on a vu hier, on ne sait même plus si c'est un fake ou si c'est avéré. Et quand vous voyez le temps même qui est consacré aux consultations, c'est de l'amusement. Vous ne pouvez pas consulter des gens en 1h30. Vous ne pouvez pas. Vous allez d'abord, vous devez exposer aux gens le document que vous avez et faire une communication sur une révision constitutionnelle. Je pense que le minimum, c'est 1h30 pour présenter vraiment un document solide. Après, c'est pour récolter leur avis ou bien juste qu'ils sont là pour dire qu'ils ont été consultés. Donc, il y a un problème là-bas. Et au-delà de tout, c'est-à-dire, consultation ou pas, nous sommes d'accord que les députés peuvent revoir la Constitution. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste très simple. Si le gouvernement ou le pouvoir togolais a envie de revoir la Constitution, personne ne l'empêche. Mais qu'il donne cette opportunité soit à une assemblée nouvelle, soit qu'il aille à un référendum. Et c'est là où tout se joue. Si aujourd'hui on veut rentrer dans le fond, je suis désolé, mais nous spéculons tous. Tous les documents que nous avons aujourd'hui, je les considère comme des fakes parce que tout le monde admet qu'il n'est pas vraiment en possession du document final. Même les députés qui ont voté, vous les contactez en privé, ils sont incapables de vous donner le document qu'ils avaient. Donc, la relecture, je pense que le chef de l'État, entre guillemets, voulait, ce n'est pas finalement dans ça qu'on est, mais on est en train d'essayer de se rattraper. Et quelqu'un l'a dit sur le plateau, le ministre Bahara, en résumé, a dit « le chien aboie, la caravane passe ». Donc, d'une façon ou d'une autre, on va se plaindre de notre propre turpitude à la suite de ce processus.
Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand tu prends la classe politique alors de l'opposition, il y a cette dénonciation alors de cette nouvelle constitution. Et d'aucuns disent que mais c'est parce que le pouvoir en place aurait un agenda caché.
Non, c'est clair que cette constitution, nous devons tous la dénoncer. Parce que si des députés étaient là durant tout leur mandat, ils n'ont pas jugé pertinent de le faire. Il faut retenir que c'est cette législature qui, finalement, avait réintroduit la limitation de mandat. Pourquoi à l'époque, ils n'ont pas réfléchi à tout ça? C'est comme vous me dites que vous avez exercé le pouvoir durant 20 ans, ou presque 20 ans avec Fonia Singbe, et vous réalisez soudainement que vous pouvez faire mieux si vous rentrez dans un régime parlementaire. Non, il faut qu'on soit conséquents les uns envers les autres. Je pouvais comprendre si un nouveau pouvoir arrivait et disait que on doit aller vers un régime parlementaire, c'est assez conséquent. Mais pour moi, ce qu'il y a comme au Togo, vous savez, j'ai perdu 45 minutes pour arriver ici. Ça, c'est des problèmes pour lesquels nous attendons que nos députés interpellent nos ministres. C'est des problèmes que nous voulons voir réglés. Mais dire aujourd'hui que changer de régime, c'est ça qui va changer le quotidien du Togolais, je dis non. Si vous me permettez d'ouvrir la porte, je dirais que Fonia Singbe est en train de se saisir d'une opportunité pour devenir un président du Conseil et ne plus être gêné parce qu'il est resté président.
Uriel ?
Non, par rapport toujours à cette nouvelle constitution, vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous rattrapent. Il y a beaucoup de choses qui nous rattrapent. Peut-être que chacun l'a en tête ici. Vous savez, lorsque tout dernièrement, lorsqu'on critique que l'Assemblée nationale actuelle est en fin de mandat, ils n'ont pas la légitimité de faire ceci ou de cela. Nous nous faisons toujours rattraper. Je ne sais pas pourquoi c'est la Constitution qui a attiré plus notre attention. Et lorsqu'on votait aussi pour augmenter le nombre de sièges à l'Assemblée nationale, ça n'a pas attiré notre attention. Personne.
Mais c'est la loi fondamentale parlant de Constitution.
Non, attends, moi je parle sur un aspect. Nous trouvons la plupart que les députés n'ont plus la légitimité de continuer leur travail. On aurait dû commencer cette réaction-là depuis décembre. On aurait dû commencer depuis décembre. Que peut-être, ça sonnerait dans la tête de nos représentants à l'Assemblée nationale de ne plus aller ici, de ne plus aller là. Mais nous avons laissé, nous avons accepté les choses. On a accepté même 113 sièges. On a accepté tout. Aujourd'hui, on parle du changement de la Constitution. Mais ils peuvent revenir là-dessus pour nous poser la question. Mais quand on avait voté, c'était pourquoi vous n'étiez pas contre? Moi, je propose une chose. Si un jour, on m'associait à ce groupe de consultation, si on m'associait, j'allais écrire ma proposition personnelle.
Et qu'est-ce que cette proposition?
Je l'ai une fois dit ici. À cette proposition, j'apporte un renforcement. Non seulement, il faut créer un mécanisme pour éviter tous les soucis. Créer un mécanisme lorsqu'une institution arrive à fin de mandat, les mécanismes bloquent automatiquement tout le fonctionnement. Il faudra une nouvelle équipe, un nouveau groupe pour réouvrir les mécanismes de fonctionnement. Si on n'en arrive pas là, on sera toujours dans les méandres. On ne pourra pas s'en sortir. Et de deux, lorsque la loi autorise les députés à continuer à être en fonction jusqu'à la mise en place de la nouvelle équipe, c'est très dangereux. Ils ne continuent pas à percevoir leur salaire. Ou je me trompe. Ils ont les avantages, les intérêts, les carburants et tout. C'est le contribuable. On pourrait par exemple dire, si la nouvelle équipe n'est pas encore mise en place, les députés continuent, ils sont en fonction pour jouer leur rôle. Mais c'est lorsqu'il y a session qu'on leur donne des primes. Là, vous devriez voir que les choses allaient se précipiter. Mais quand vous laissez les gens, ils sont là, à la fin du mois, il a son salaire, il a ses avantages, il a intérêt, tout. Il a son véhicule républicain, tout. Vous voulez quoi? Il fallait ces précisions-là pour essayer de mettre fin, pour essayer de bloquer certaines choses.
D'accord. Jacques?
Bon, je crois que l'analyse de Uriel, quand il parlait tout à l'heure de le fait que les gens se sont tués sur les 113 députés et que les gens réagissent maintenant par rapport à la Constitution, mais la Constitution touche la vitalité de notre démocratie. Le vécu du Togolais, le vécu que nous sommes dans le pays. Au fait, tous les débats à ce niveau. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous, me donner une fille et vous êtes là à m'observer pour voir si je peux avoir un lit. Ça n'a pas de sens. Si vous pouvez me donner une fille, c'est que je suis capable de pouvoir me trouver un lit. Vous ne pouvez pas dire, bon, parce que vous m'avez donné la fille, bon, je verrai comment il va faire. Ça rentre dans mon intimité. Parce que si je voulais forcer, finalement, c'est comme si vous allez rentrer dans la même chambre avec moi, avec la fille. Donc, prenez votre fille. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la vitalité, c'est que tous les Togolais sont concernés dans ce qui se passe. Les 19 là, vous allez voir que c'est ceux qui se battent pour aller. Mais la vitalité de notre démocratie se repose sur le socle de la Constitution. J'entends les gens également dire que non, bon, c'est parce que les gens ne sont pas allés à l'Assemblée nationale qu'on a modifié. Non, ça n'a pas de sens. Même si les gens ne sont pas allés à l'Assemblée nationale, la loi fondamentale dans notre pays, il y a deux mécanismes, soit l'Assemblée, soit le référendum. Au fait, tout le débat à ce niveau. Donc je crois que quelque part, fondamentalement, s'il y a changement, c'est parce que les gens ont constaté qu'il y a des vices de procédure. C'est ce que M. Madi venait de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que si les choses étaient respectées, voilà le problème. Je ne pense pas que ça va créer de problème à un Togolais. Madi l'a dit tout à l'heure. Pourquoi c'est vers la fin que... Vous voyez, c'est ça que... C'est tous les débats à ce niveau. On pourra vous dire également que non, ils sont en fonction parce que les autres ne les ont pas encore remplacés. Mais on sait qu'ils ont fait 5 ans. Durant 5 ans, ils pouvaient le faire. Pourquoi attendre vers la fin pour le faire? Donc, comme les uns et les autres l'ont dit, nous ne pouvons pas rentrer dans ce jeu de mots ou bien de qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Mais ce qu'il faut retenir, moi j'ai dit, nous sommes des Togolais. Il faut qu'on choisisse ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens pensent que, en le faisant, ils vont englober tout le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que j'ai soif que je vais prendre mon seau, aller à la mer pour puiser l'eau pour boire. Non, je ne vais pas éteindre ma soif. Moi, je crois que ce qui est bon pour nous tous, il faut que nous puissions effectivement le faire.
D'accord.
Pour le bien du peuple. Ce qui peut diviser le peuple, il faut l'éviter.
D'accord.
Moi, c'est ce que je pense.
Merci beaucoup, Jacques. Oui, Gosson.
Voilà, beaucoup aiment à parler de turpitude quand ils montrent le doigt à l'opposition. Je le dis et le répète pour aller un peu dans le sens de Jacques, que quand tu as une vision pour non pas un parti, non pas des partisans, mais tout un peuple, l'opposition peut ne pas être présente. Tu feras ce qui est bien. C'est ça que les gens doivent avoir à l'esprit. Quand les gens disent que ben, s'ils n'avaient pas boycotté 2018, ça s'est rentré dans le passé. Le régime peut faire tellement de bien que le peuple va se foutre de l'opposition.
Justement.
Ça, c'est la vérité. Donc, quand ce n'est pas bon, on doit avoir le courage de le dire. Parlant des centres des députés, c'est parce que dans la Constitution, c'est acté que les députés peuvent, ou alors un projet ou une proposition.
Une loi organique.
Voilà. Peut acter cela. Mais quand ça touche à la présidence, c'est ce que beaucoup ont relevé. Il n'y a que le référendum pour départager le peuple. Autrement, quand ceux qui essaient de parler des bons côtés du régime parlementaire,
oui.
Je l'ai dit et répété, en paraphrasant Kako Nouboukbo, lui, il sait ce qu'il dit, la 4e République française, c'était un régime parlementaire. L'État israélien, c'est un régime parlementaire. Mais allez voir les blocages que ça constitue.
Même l'Italie.
Donc, qu'on ne vienne pas nous saouler avec cette affaire de régime parlementaire, ses avantages. Ils n'ont même pas le courage de dire les inconvénients. Mais moi, j'en parle.
Non, d'accord. En fait, moi, je n'aime plus, je ne voudrais plus qu'on retourne en arrière. Parce que si on veut retourner en arrière, on trouvera beaucoup de défauts. Tellement que.
On finira pas justifié.
Oui, on finira. Non, pas justifié, mais. Parce que vous savez, par exemple, que si on voudrait véritablement respecter la Constitution de 1992, si ça avait été respecté en ce qui concerne le mandat des députés, les élections législatives, on ne serait pas dans ce débat d'assemblée en fin de mandat ou pas. Parce que la Constitution dit que les élections ont lieu 30 jours avant la fin du mandat des députés. Si on avait respecté ça, si les élections avaient eu lieu, si on avait respecté cette disposition constitutionnelle, au plus tard, hein, les 30 jours avant la fin du mandat des députés, on n'aurait pas, on serait pas dans ce débat. Peut-être les constitutionnalistes, les juristes pourront véritablement nous le dire. Si ça avait eu lieu, les élections avaient eu lieu, et qu'on avait les successeurs qui devraient, parce que quand on parle de successeurs, c'est des gens connus. Si déjà ne sont pas connus, on n'a pas élu des gens, ce ne sont pas des successeurs. Le problème, c'est que on prend tellement. Il parle de turpitude, les turpitudes peuvent être des fois. À l'échelle nationale. Je pense que... mais il faut qu'on sorte maintenant de là. On est dans une situation où on ne peut plus retourner aller faire les élections entre fin novembre et début décembre. On est dans une situation où les élections n'ont pas eu lieu. Il y a un problème autour du mandat qu'exercent, continuent d'exercer les députés. Il y a un problème autour d'une constitution qui a été votée et que des gens ne veulent pas et qu'on veut consulter maintenant les gens. Moi, ce que je dis, c'est que si la volonté, c'est véritablement d'apaiser et de rassembler autour du projet et de voir si on peut, où on veut, où on va y aller et de véritablement avoir l'accord de toutes les couches de la population togolaise, je dis et je répète que ce n'est pas la première fois que le Togo connaît des crises politiques et qu'on essaye de résoudre par des discussions ou des consultations. Là, la procédure adoptée pour pouvoir... parce qu'il n'y a pas de mécanisme naturellement qui permet à l'Assemblée nationale d'aller consulter directement des populations sur des tests de loi et tout ça. généralement, ce qui se fait, même sur cette histoire d'augmentation, de redécoupage électoral dont on parle, c'est un produit d'un accord politique au minimum au moins. Il y a eu des discussions au CPC entre acteurs politiques et tout ça. Des gens se sont mis d'accord qu'il faut augmenter le nombre de députés. Donc, ma foi, si l'Assemblée nationale doit légiférer sur un document, enfin une constitution hautement politique d'une telle ampleur, il faut repasser par des discussions entre les acteurs politiques, entre les différentes couches de la société. Et alors là, si des gens se mettent d'accord, on pourra rentrer à l'Assemblée nationale pour légiférer. Et d'accord. Si on ne trouve pas gain de cause, l'étape finale, c'est peut-être le référendum.
D'accord, merci
moi,
beaucoup,
c'est ce que je dis.
Merci
je pense qu'il faut explorer cette piste-là.
Oui, M. Diabaté.
Oui, je pense que nous devons sortir de ce qu'on appelle le mimétisme. Déjà, quand on parle aujourd'hui de 113 députés, quel est l'intérêt pour le Togo d'avoir 113 députés? Quel est l'intérêt pour le Togo d'avoir un Sénat? C'est des questions que nous devons nous poser réellement. Parce que l'incidence aujourd'hui, c'est que nous qui sommes ici, nous les citoyens, nous payons plus de taxes. On nous astreint pour donner un train de vie à ces personnes. Mais sincèrement, qu'est-ce que augmenter le nombre de députés va nous rapporter dans ce pays? Il faut qu'on soit sincère. Aujourd'hui, on a besoin de moyens pour que les gens puissent faire du travail à la base. Réorientons ces moyens vers ces choses. Fondamentalement, qu'on rentre dans une affaire de comparaison ou pas, moi je pense que c'est une question d'opportunité. Et à l'heure où nous sommes aujourd'hui, on n'en voit pas l'opportunité. Même si nous parlons de, comment dit-on, la latitude qui a été laissée à certains députés de faire des lois, il faut noter que, quoi qu'il en soit, dans tous les pays du monde où on parle de transition ou bien des gens, leur mandat a expiré, surtout dans ces régimes parlementaires, Israël et Italie et autres, ou même la Belgique où parfois ils font un an sans gouvernement, ceux qui sont là, ils ne gèrent que les affaires courantes. Ils ne font pas de réformes majeures pour engager la responsabilité de l'État.
Même, le problème, c'est que ici, ce n'est pas précisé.
Non, ce n'est pas une question de préciser. D'abord, quand on parle de droit, quand on écrit un texte, la Constitution ne va pas en faire finalement...
toute une Bible.
Toute une Bible, pour la détailler, non. Ça veut dire qu'on a appris de ce qui se passe ailleurs. Il faut maintenant être sage et de bonne foi pour savoir que quand on dit que vous restez en place jusqu'à ce que les autres viennent, ça veut dire justement qu'on vous maintient juste pour que l'institution soit là. C'est tout. Aujourd'hui, nous parlons même de la CENI. Il y a des questions plus principales. La CENI doit être aujourd'hui considérée comme une institution d'appui à la démocratie. La CENI ne peut pas dépendre d'une simple loi dans le contexte aujourd'hui où on peut la transformer comme on veut. On nous parle d'institutions, que ce soit la CNDH, que ce soit la médiatrice de la République. Aujourd'hui, on nous parle même de protecteur du citoyen. Tout cela alors que l'une des priorités est le problème togolais aujourd'hui. C'est-à-dire, même quand vous me parlez de régime parlementaire, on en parle parce que dans ces pays, à la suite d'une élection, les gens n'ont pas de revendications. Tout le monde est d'accord que le scrutin s'est passé. C'est par rapport à mes forces et à ma mobilisation que j'ai eu tel nombre de députés. Mais au Togo, vous pouvez aller aussi à revenir. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape où on va à un scrutin et les gens admettent que ça s'est passé comme cela se doit.
Parce que...
Et voilà, donc quand vous n'avez pas encore la transparence du processus électoral qui est acté, vous ne pouvez pas vous limiter aujourd'hui à parler de régime. Il faut d'abord que la transparence des processus électoraux soit consacrée. Même l'élection dont on parle, même si référendum il doit y avoir, il faut aujourd'hui qu'on y aille avec une structure qui a l'assentiment de tout un chacun et qui apporte les garanties. Mais si aujourd'hui, par un simple communiqué, le chef de l'État peut mettre en pause un décret... Je souffre de dire que je ne lui fais pas confiance.
Justement, et cette question-là, ça a créé de polémiques hein, dans l'opinion. Beaucoup de gens se disent, mais écoutez, comment se fait-il que le chef de l'État qui déjà fait sortir un décret pour appeler le corps électoral et finalement, on sort un communiqué pour juste alors dire que l'élection n'aura plus.
C'est l'histoire du Togo. Au Togo, le pouvoir en place est convaincu que tout ce qu'il décide, c'est du droit. Et quand ça l'arrange, il le fait. Quand ça ne l'arrange pas, il ne fait pas recours au droit. Parce que le simple droit que les juristes agrégés sont en train de passer par là, là, il suffisait de lire l'article 59 pour qu'il la ferme. Et pour qu'on ne parle même pas de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est dire qu'on est dans un contexte où le droit, on en parle quand ça arrache les intérêts de ceux qui nous gouvernent, malheureusement.
D'accord. Je pense qu'il est déjà midi, passé de 3 minutes. Nous allons maintenant écouter aussi nos compatriotes, nos auditeurs hein, qui sont à l'écoute. Ils sont très nombreux à l'écoute. Donc, nous allons leur donner la parole. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. On revient juste après. Oui.
Constitution au Togo est devenue comme les églises dans notre pays. C'est-à-dire que chacun couvre sa chapelle par rapport à sa dénomination, par rapport à sa conviction. Et cela ne devait pas être comme ça. La Bible est entière. Vous voyez, vous respectez ce que la Bible dit et puis c'est fini. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est comme si cette nouvelle constitution constitue aujourd'hui des dominations, comme que nous avons dans le monde.
Et ça chacun tire le drap de son côté.
Ah, bien sûr, et finalement, on ne se comprend pas.
D'accord. Nous allons maintenant faire un clin d'œil à nos annonceurs. On revient.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission et vous comprenez sans doute que nous nous ouvrons maintenant à vous et vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75 pour s'exprimer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse aujourd'hui. Nous insérons notre premier auditeur. Allô?
Oui. Allô.
Bonjour Pélé.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Oui, très bien.
D'accord. Allez-y.
Bon, moi, une seule question, mais une préoccupation. Je me réponds. On amène les intellectuels qui sont en train de défendre cette loi-là et de nous expliquer comment un simple communiqué de la présidente peut abolir un décret présidentiel. Merci.
D'accord, merci beaucoup, Pélé. 22-21-33-114-91-36-33-115. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, Évangéliste Senghor.
Je salue tout le plateau.
D'accord, merci.
Je voudrais m'intéresser sur... la décision prise par le chef de l'État fort en allant ou bien reculant en arrière pour la décision qu'il a prise pour un dialogue élargi. Bon, mais mes amis, vous savez, c'est ça qui démontre que je ne peux pas dire ici que le chef de l'État ne dirige pas le pays. C'est-à-dire qu'il y a une crépuscule de personnes qui prend des décisions autour du chef de l'État. Mais vous venez de voir. Moi, je vais saluer quand même sa décision parce que quoi? Il voit que, avec cette situation, le Togo sera embrasé. Vous voyez, non? Oui, il a fait demi-tour. C'est vrai qu'il a pris une décision, il a arrêté les élections, les gens ont dépensé. Bon, je crois que quand ils vont relancer, on va subventionner tous les partis qui ont fait des dépenses, l'autre là. Mais vous devez savoir que ce n'est pas ça. Hein? Il y a certaines personnes. Bon, maintenant, voilà que. Pourquoi on n'avait pas contacté le peuple et c'est maintenant qu'on envoie des gens. Et bon, il y a un humain qui dit la caravane, le chien aboie et la caravane passe. Mais vous voyez, donc moi je dis chaque fois, mes frères, que tous ceux qui ne veulent pas l'avancement de mon pays, le Togo, tous ceux qui ne veulent pas que ça demeure comme ça pour leur intérêt, je dis qu'il est temps que Dieu va les enlever.
Merci beaucoup, Évangéliste Senghor. 22-21-33-114-91-36-33-115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui? Bonjour.
Comment vous allez?
Oui, c'est Isaac, j'appelle de Dagoé.
Isaac, oui, allez-y.
Allô?
Oui, Isaac, nous vous écoutons.
Allô?
Ah, décidément, Isaac n'a pas de retour. 22-21-33-114-91-36-33-115. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Togolaisement bien.
C'est Nyamavo?
Non, c'est Basile.
Ah, Basile, voilà. Oui. Allez-y.
Salut le plateau.
Salut.
Et moi, je veux dire une chose. Cette affaire que c'est parce que les gens ne sont pas partis dans l'actuelle assemblée qui a expiré le 7 janvier, là. Quelqu'un vient de le dire. Pourquoi est-ce que... Bon, eux qui sont là, eux, ils ne sont pas là pour le bien de la population, que c'est l'opposition qui doit venir rester là-bas avant qu'ils ne fassent ce qui est bien pour la population. Que c'est parce qu'ils ne sont pas partis. Bon, quand ils sont là-bas, là, c'est pour toujours faire irriter la population. Moi, je ne comprends pas. Et puis on dit que 19 personnes ont envoyé quelque chose. Maintenant, le gouvernement prend ça à bras le corps. Ça démontre quand même automatiquement que c'est le gouvernement qui est à la base de cette affaire. Ou bien vous ne voyez pas. Si vous ne voyez pas, il faut me le dire. Le chef de l'État n'a qu'à se départir de ces prises de position-là. Moi, je pense que ça ira mieux pour lui. Merci.
D'accord, merci beaucoup, Basile. 22 21 3314 après Basile. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Seigneur Mavo.
Seigneur Mavo.
D'accord, allez-y.
Et je vous présente mon carton vert à tous les plateaux.
Merci beaucoup.
Oui, c'est là qu'on va savoir que le pouvoir a échoué, l'opposition a échoué, la population souffre et chacun donne des analyses objectives pour le lendemain meilleur. Vous savez, au lendemain, quand le chef de l'État disait faire la réélection, dans une causerie de bas, je disais que non, s'il maintient et il dit que ça ne passe pas, moi seul, je peux lui donner le mandat encore là. Pour pérenniser la démocratie. Le gars me demandait, mais il a fait quoi? Il dit, ça, il a fait plus que ce qu'il faisait. C'est très important. C'est pour pérenniser la démocratie. Et pour vous donner un témoignage, ils ont commencé leur tournée. Vous savez, dans un village à l'intérieur, le préfet était surpris que la population n'est pas sortie. Il voulait chauffer les chefs. Les chefs ont dit qu'ils ont gongonné. Ils ne peuvent pas rentrer, faire sortir la population. Un monsieur s'est levé, il a dit que vous êtes venu nous nommer le représentant du gouvernement et de la population. Vous avez dit que vous allez faire les ponts, les routes, les écoles. C'est où? Monsieur le préfet, si vous pouvez nous suivre, aller dans les maisons, écouter ce que la population va dire, vous allez faire 3 jours sans manger. Oui, la consultation, là, ça doit prendre le temps. D'ailleurs, le peuple ne sait même pas ce qu'il veut venir dire. C'est compliqué. Ils vont passer, après, ils vont venir nous dire que tout est acté, c'est fait, comme l'a dit le ministre. En tout cas, on a des penseurs togolais. Il lui disait, à grand coup de rambé, c'est quelque chose comme ça.
D'accord.
Donc le chef de l'État n'a qu'à prendre de la hauteur, continuer tel que les acteurs. On est en train de voir si Bawara n'a pas laissé. Ça veut dire qu'ils ont financé pour cette constitution. Donc il ne doit pas perdre. Donc si c'est une minorité de députés, ça se comprend. On connaît celui qui a aboli l'esclavage. Pourquoi on ne connaît pas les députés qui ont pris l'initiative? C'est compliqué.
Merci beaucoup, Niamavo. Merci beaucoup, Niamavo. Vous avez été compris. 22 21 33 14. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur Komlavi.
Oui, monsieur Komlavi, allez-y.
Oui. Je salue le plateau. Je pense que les débats sont un peu riches. Et moi, ce que je voulais dire, à l'annonce de cette constitution, beaucoup ont réclamé que cela soit inclusif. Aujourd'hui, le chef de l'État a demandé qu'on consulte les populations. Je pense qu'on donne la chance à cette consultation et tout le monde s'y met. Il donne son point de vue. À la fin, le chef de l'État avisera que de commencer à donner des conclusions comme ça ne va pas réussir. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. Au début, tout le monde a demandé qu'on devait consulter les populations avant de prendre des décisions. Oui, c'est vrai qu'on l'a fait à l'inverse, mais aujourd'hui, il faut donner la chance à cette consultation que la politique, les chefs d'État et les chefs coutumiers, religion, et tout le monde aussi peut donner son point de vue. Et à la fin, on avisera. Et ce n'est pas du bien qu'on commence à donner des conclusions ou donner, décourager les populations qui veulent vraiment donner leur point de vue par rapport à ce que se fait. Donc je pense qu'il faut encourager ce que se fait et donner la, et laisser les connaissances aller au fond. Et à la fin, on verra les conclusions.
D'accord.
Et on verra ça. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Komlavi. 22 21 314. Allô?
Allô, bonjour mon directeur.
Bonjour papa Sibiti.
Mais bonjour le plateau.
Bonjour, et que ça fait longtemps.
Oh, oui. Ah, je n'arrive pas à voir les lignes.
Ah,
Nana FM, ils m'ont condamné là-bas.
Non, personne ne vous a condamné. Personne ne vous a condamné.
Je suis sous la radio.
D'accord.
Vous ne m'entendez pas, ce n'est pas que j'ai abdiqué.
D'accord.
Je vais apporter mon point de vue. Vous savez.
Merci, vous y êtes.
Nous
Allez-y.
N'avons qu'un seul président de la République. C'est lui qui a la tête. J'ai toujours chanté, gongonné, que je ne veux pas que quand on met quelqu'un là-bas, on me dirait que vous êtes là. Je n'aime pas qu'on vous insulte. Faut pas poser des actes. Par exemple, un ministre est venu aujourd'hui à la NFM. il faut voir la question que quelqu'un lui a posée. Ce n'est pas normal. On ne peut pas insister. Ils n'ont qu'à poser des actes qu'on puisse applaudir. Le président de la République, je l'ai dit, il n'a qu'à écouter le peuple. Il n'a qu'à écouter le peuple et ne pas promulguer ce qu'il y a là. Vous avez entendu quelqu'un qui dit que quoi, on ne peut pas demander aux... Les chefs ne peuvent... Président, je suis à Gélou. Enlevez ça. Le Togo est un pays de paix. Vous avez écouté même le général Yadema. Il a un vocal qui circule. Président Faure, notre enfant, notre petit frère. Il ne faut pas promulguer. Mais le pays, Togo, pays de paix. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui,
c'est David de Dagoué.
Oui, David, allez-y.
Bon, les députés ont voté au 4/5 pour le système parlementaire. Il ne restait que la promulgation. Le président de la République a demandé la relecture, puis a souhaité qu'on interroge les populations. Vous ne trouvez pas que c'est sage de sa part? Aujourd'hui, on démarre la consultation. Et déjà, c'est la méfiance. L'opposition n'est pas d'accord. On trouve déjà des choses à dire. Et ce matin, sur une chaîne de la place, un leader de l'opposition, pas des moindres, déclarait que la répartition des sièges devrait être, n'est pas bien faite par rapport à la population. Mais c'est avec cette répartition qu'il entend aller aux élections. Il parle également qu'il n'est pas guidé par l'intérêt personnel et dit ensuite que le président veut s'établir au pouvoir. Bah, si la répartition est mal faite, mieux vaut ne pas aller à une élection que vous pensez avoir perdu à l'avance. Et si le président veut s'éterniser au pouvoir, il va donc gagner les législatives, puisque vous-même dites que la répartition n'est pas bien faite. Il a la majorité à l'Assemblée, il sera élu en 2025 pour suffrage universel direct. 2 ans après, il introduit une réforme et le compteur est à zéro. Et vous allez faire quoi? Il dit qu'il n'est pas guidé par l'intérêt personnel, alors que tout le monde sait qu'il y aura un manque à gagner pour eux si on est dans un régime parlementaire. Vous savez qu'à chaque rendez-vous électoral, ils ont 70 ou 75 millions. Lui-même disait ce matin qu'il n'a pas d'argent.
David.
Et puis je ne comprends pas les leaders de l'opposition.
D'accord, merci beaucoup David. Merci beaucoup David. 22 21 33 114 91 36 315. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado.
Oui, je voudrais vous demander pourquoi c'est maintenant que le gouvernement est en train de faire du Hollywood. Normalement, ils devaient consulter la population. D'abord, ils ont raté. Le chef d'État n'a pas un conseiller. Ils veulent passer en force. Quand les gens commencent à crier maintenant, ils font des ruines. Pourquoi l'Union ne veut pas la paix pour ce pays? Franchement, ils n'ont qu'à retirer ça pure et simple. Parce qu'ils savent que s'il y a les élections, il n'aura pas la majorité. C'est pourquoi ils sont forcés de faire savoir ce parti. Ça, c'est du forcing. Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Même en Israël, ça ne marche pas. Merci.
D'accord, merci beaucoup. Vous avez posé la question, vous l'avez répondu aussi. 22 21 33 114 91 36 315. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, c'est Johannes.
Johannes, allez-y.
Mais avant d'aller à mon intervention, je pense que nous, les outils, on l'a relevé plusieurs fois. Et de la manière dont c'est difficile d'entrer à ligne, on ne comprend pas pourquoi lorsque l'autre ligne sonne, ça sonne jusqu'à ce que ça ne se coupe. Alors que
oui, il doit y avoir d'interférence, Johannes. C'est-à-dire
on peut nous décrocher, nous, on reste en ligne. Nous avons l'habitude
au même moment.
Quelques minutes.
Oui, c'est sûr. Là, vous perdez encore de temps. S'il vous plaît, allez-y.
Non, il faut qu'on le souligne pour les
D'accord,
fois.
Merci beaucoup. Ok, d'accord. Allez-y.
Voilà. Je ne sais pas pourquoi les Togolais aiment trop vite aller en besogne. C'est-à-dire que ce folklore qu'on nous prépare, c'est-à-dire le seul fait que le président ait demandé une deuxième lecture, et on commence à dire que bon, Faure a senti, je ne sais pas, Faure veut le bien du peuple, Faure veut ceci. Attendons juste le folklore, qu'on nous sorte le résultat du folklore qui est préparé, on verra si. Il faut féliciter Faure pour ce qu'il a dit ou pas. Donc, je me dis que c'est juste un scénario qui est préparé à l'avance et des groupes organisés vont être consultés. On va dire que le peuple togolais a été consulté et a donné son avis favorable. Donc, ce n'est pas la peine que les gens commencent à aller trop vite en besogne, comme quoi il faudrait. Tout a été fait dans l'ignorance du président Faure Gnassingbé. Merci.
Merci beaucoup, Yohannes. 22 21 3314. Nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, Didier.
Bonjour, le plateau.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Jabakate.
Comment vous allez?
Ah, ça va, alhamdoulilah, ça va bien.
D'accord, allez-y.
Mireille, bonjour. Bon, moi, si je comprends bien ce que Mireille me dit, peut-être je ne comprends pas, hein, que ce que les députés font n'est pas bon, mais c'est parce que l'opposition n'est pas là qui le font. Qui reconnaît que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux, mais c'est parce que l'opposition n'est pas là qui le fait.
Non, Uriel ne l'a jamais dit.
Oui, mais parce qu'il dit que parce qu'il n'y a pas les oppositions, il n'y a pas le point, c'est pourquoi ils font ça. Il a dit. Il a dit aussi la
non,
de, dit ça. De la loi sur les 116 qu'ils ont augmenté.
Didier.
Non. Oui.
Oui, allez-y, suivez votre commentaire.
Ah, mon commentaire, c'est comme j'ai une moto, et puis le voleur est venu voler le rétroviseur, je ne l'ai pas vu. Le troisième jour, il vient voler la moto même. Et je l'arrête, le voleur me dit, ah, comme j'avais volé les rétroviseurs, tu n'as pas vu, donc j'ai le droit de voler la moto, c'est pas bien. C'est pas bien. Enseignons que le bon sens domine tout ce que nous faisons. Même si les députés là sont à même au dernier mois de leur mandat, qui est valide. Mais ça, le bon sens ne voudrait pas qu'ils ne fassent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de modifier toute une vie des gens. C'est pas normal. Et puis, vous savez, ce qui m'étonne, le jugement est faussé à la base. Le Sénat dont on parle, ce qui m'écoeure moi, là, personnellement, le président lui seul, sur quel droit il nomme le tiers. Donc, ce qui dit que si on gagne le président, s'il a juste ce tiers, il redevient majoritaire. Est-ce que vous trouvez que dans ce jeu, le jeu est égal? Monsieur Mireille, le jeu est égal? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Didier. Je pense que Didier, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi, Club de la Presse. Nous revenons en plateau hein, pour répondre à des questions et aussi faire un tour de table et clôturer cette émission. Alors, d'abord, Monsieur Madi Diabakate, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Quelle est votre réaction?
Non, je dirais, comme on l'a d'ailleurs soulevé entre-temps sur le plateau, les gens n'ont pas encore transcendé l'intérêt partisan pour comprendre que nous parlons du Togo. C'est-à-dire, vous savez, quand nous parlons de ces sujets, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un a envie de devenir président ou quelqu'un a envie de devenir député. Mais nous voulons que ce pays rayonne. On dit l'ordre de l'humanité. C'est à ça qu'on pense. Mais ces petites choses-là, ça ne va rien donner. Et malheureusement, le débat est fermé au point où des gens ne viennent défendre que parce que leur parti l'a fait. J'ai suivi le ministre des Enseignements sur un plateau, primaire et secondaire, sur un plateau, où il est venu gaillardement dire que, bon, en tant que militant, il est venu défendre un projet, alors que lui-même n'a pas eu copie de ce projet, comme beaucoup d'entre nous ici. Donc, c'est-à-dire, il faut à un moment donné, même quand on est militant, et je salue au passage, j'ai vu des réactions de certains militants du Net et autres, qui n'ont pas été contents de la tournure que cette affaire a pris dans leur parti. Parce qu'on peut être militant, on peut avoir la discipline de parti, mais la patrie est au-dessus du parti. Il faut qu'on le comprenne ainsi et qu'on se projette pour ce pays. Nous allons léguer ce pays à nos enfants. Nos parents nous l'ont légué, nous allons le léguer à nos enfants. Mais quand même, il ne faut pas que nos enfants vivent pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Gouverner le Togo, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire tous ensemble. Gouverner le Togo, c'est engager la responsabilité des uns et des autres à différents niveaux. Il faut que ceux qui nous dirigent puissent travailler et puissent faire ce pourquoi ils sont élus. Il ne faut pas qu'ils attendent, parce que bientôt, les gens vont dire que s'il y a inondation à Lomé, c'est la faute de l'opposition, parce qu'elle n'est pas allée au Parlement, ou bien parce qu'elle n'a pas pris part aux élections. Attention, quand tu as un travail, fais-le et montre aux gens que je l'ai fait. C'est tout.
D'accord. Didier ?
Oui, je crois fondamentalement que ce que nous disons, je pense que ce sujet-là n'est pas un sujet dans on est partisan ou pas. On parle, comme m'a dit le Didier tout à l'heure, du Togo. Moi, je me rappelle encore quand on était vraiment, vraiment enfant, je me rappelais encore de ce que disait mon papa sur le pays. Et aujourd'hui, je me rends compte que nous sommes dans les mêmes situations et que nous espérons que demain sera meilleur pour nos enfants que nous commençons par avoir. À partir de ce moment-là, quel Togo nous voulons laisser pour nos enfants dans le futur. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai écouté un auditeur dire non, que comme les opposants disent que le découpage électoral n'est pas bon, il ne faut pas qu'ils aillent aux élections. Je crois que c'est un peu ridicule cette façon de raisonner. Parce que si hier des gens n'étaient pas là, et aujourd'hui on les accuse que c'est parce qu'ils ne sont pas là que des choses se font, et qu'aujourd'hui malgré le contexte, des gens veulent apaiser et vont participer aux élections, on dit non, non, si vous participez c'est parce que c'est bon. Je pense que nous devons tous raisonner et travailler à ce que notre Togo soit pas un Togo de demain, dans un Togo de clivage. Parce que nous commençons par devenir un peuple. C'est pas encore parfait, mais nous commençons par y arriver. Parce que nous avons des amis qui viennent d'un peu partout. Nous nous marions entre nous aujourd'hui. On ne peut pas dire que tel ici. Ce que nous voulons, c'est que quel que soit celui qui sera président de la République demain, président du Conseil demain ou député demain, qu'il travaille rien que pour le Togo et pas pour un parti ou pour lui-même et ses intérêts.
D'accord. Merci beaucoup, Didier. Oui, Jacques.
Non, je crois que vous voyez un peu les prises de position. C'est-à-dire ce que je disais tout au début. Nous constatons que nous avons aujourd'hui deux Togo alors que nous avons un seul Togo, une seule patrie, une seule nation. Et la devise du Togo nous dit que c'est liberté,
travail, liberté, patrie.
Donc je crois que il faut d'abord que nous ayons en nous d'abord cette patrie. Donc je voudrais inviter une fois encore les acteurs, en premier rang le chef de l'État. Elle a dit celui qui peut faire baisser cette température, c'est lui. Je crois que tous les pouvoirs sont entre ses mains. S'il le veut aujourd'hui, je vous dis que cette température va chuter.
D'accord, merci beaucoup Jacques. Godson.
Oui, j'ai apprécié personnellement la vitalité des interventions des auditeurs. En ce sens que ils ont dit ce qu'ils ont sur le cœur. Parlant de cette vision que moi j'ai, je voulais juste dire que s'il m'était donné, là je parle à cœur ouvert, de gouverner, non, ou de gérer une partie de notre territoire,
oui,
c'est la région des savanes et la préfecture de Mou, des milieux que, même la région de la Kara, que j'ai eu à visiter, parce que je me dis, tant que sur tout notre territoire, il y aura des pans de pauvreté aggravés à certains endroits, la paix sera difficile à acquérir. Et ce n'est pas parce que moi je suis de Cloto que je rêve de travailler dans le Cloto.
D'accord, merci beaucoup Gosson. Uriel.
À mon cher ami Didier, qui s'intéresse beaucoup à cette émission, je lui dirais que c'est vrai, aujourd'hui on n'a pas parlé de l'absence de l'opposition en 2018, mais il a évoqué un joli sujet. Quoi qu'on dise, tout ce que nous vivons aujourd'hui, en partie, c'est à ce boycott des élections législatives en 2018. Ça, c'est incontestable. Tout juriste, personne ne pourra nier que... Non, si l'opposition avait, ne serait-ce que la minorité de blocus, on n'en serait pas là, ai-je menti? Donc il faut qu'il sache que l'acte posé par l'opposition en 2018 a ses impacts jusqu'à aujourd'hui. Ça,
d'accord,
je le salue de façon...
D'accord, merci beaucoup, chers confrères. Merci, M. Madi Diabakate. Je rappelle que vous êtes alors politologue ou analyste politique. Merci d'être passé dans cette émission.
Merci.
Didier, merci à toi. Jacques, merci. Godson, merci. Uriel, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Demain, nous aurons un autre invité politique, bien sûr, pour continuer le débat. Merci à tous qui nous avaient suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutia a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse.